Alain Gorius, vous êtes spécialiste en médecine générale, homéopathe et phytothérapeute, et vous étiez cet après-midi intervenant lors d'une table ronde sur les conséquences à long terme de la crise sanitaire sur la jeunesse.
Oui, c'est une conférence particulièrement intéressante par le niveau des intervenants. Donc on a beaucoup parlé du contexte actuel, de tout ce qui s'est passé pendant la crise de Covid, des conséquences que ça pouvait avoir au niveau du développement de l'enfant, de manière plus générale, la stabilité, la souveraineté et la résilience des enfants de tout âge, quelle que soit l'époque et les crises qu'ils doivent traverser comme les adultes. Et également, on a beaucoup insisté sur le lien, la relation que les parents devaient avoir avec les enfants ou qu'ils pourraient avoir avec les enfants dans ce contexte-là, les liens avec le système d'éducation, les liens d'autorité et les liens de protection parents-enfants.
Vous avez évoqué les trois types de cerveaux. Lesquels sont-ils ? Pouvez-vous également évoquer la plasticité du cerveau ?
Alors, en ce qui concerne le domaine de neurosciences, qui m'a toujours beaucoup passionné, nous avons un cerveau reptilien qui est le premier cerveau qui est apparu aussi de l'évolution de mammifères, qui est un cerveau d'adaptation parfaite. Quand on est en coma profond, le cerveau reptilien fonctionne totalement. Donc ce sont les fonctions automatiques, digestion, respiration, le métabolisme cardiaque, etc. Ensuite, on a un cerveau limbique, qui est un peu le cerveau des apprentissages, qui est très développé chez les oiseaux, qui sont capables de retenir une architecture complexe pour faire leur nid. Et c'est aussi un cerveau qui dit affectif, qui contient la mémoire affective. Or, cette mémoire affective conditionne nos comportements. Si par exemple, dans le cerveau limbique, ben, on a passé le permis de conduire, on passe les vitesses automatiquement sans réfléchir, parce que c'est un automatisme. Mais par contre, si d'un coup on a peur de conduire, ben ces fonctions-là sont annulées. Donc l'émotion contrôle les automatismes. Et la somme des émotions définit nos croyances. Ensuite, on a un nouveau cerveau qui apparaît, qui est le néocortex, qui est en fait le cerveau qui permet de calculer, de lire, d'écrire, de conceptualiser et surtout prendre conscience finalement qu'on fonctionne avec deux autres cerveaux, qui est le lien avec l'émotionnel et qui est le lien avec la survie. La neuroplasticité, ça c'est un domaine qui est en exploration relativement récente et qui permet de comprendre que finalement un cerveau à la base c'est comme une mode de terre glaise et on va la modeler tout au long de sa vie, évidemment surtout avec le contact des parents et ensuite de l'école et ensuite de l'ambiance socio-culturelle, philosophique de laquelle on baigne. Donc notre cerveau, dès la naissance et même avant la naissance, totalement conditionné par le monde extérieur et entre autres aussi l'alimentation et les pollution alimentaire dont je parlerai ce soir.
Vous avez évoqué tout à l'heure ce qui avait transformé votre vision de la médecine.
J'ai eu une vocation réellement pour être médecin. Après le bac, j'étais électricien plombier. J'étais un cancre à l'école, c'est pour rassurer des cancres que je dis ça. Et on a passé un QI à l'école et il s'avérait que j'avais un meilleur QI que les profs. Et donc, on a commencé à m'appeler monsieur. J'ai trouvé ça ridicule, mais bon, du coup, je me suis souvenu que je me posais toujours la question comment fonctionne la vie dès la petite enfance. Et je lui ai dit, allez, je vais m'inscrire en fac de médecine. Il me restait 48 heures avant la fermeture des inscriptions. Et j'ai passé 10 ans à étudier la médecine. J'ai l'impression d'avoir passé un an. Tellement ça m'a passionné. J'ai voulu être homéopathe et on m'a dit c'est pas très bien reconnu en France. Enfin, je voulais être naturopathe même parce que j'étais près de la frontière allemande et on m'a dit en France c'est pas bien reconnu, fais médecine et puis voilà, tu verras après, tu feras ce que tu voudras. Et effectivement, j'ai pu exercer l'homéopathie, la phytothérapie, voilà, la nutrition, jusqu'à des dates disons relativement récentes, mais il y a à peu près plus d'une dizaine d'années, on a senti le vent tourner et on a vu la fin programmée des acupuncteurs, des naturopathes, et puis récemment des homéopathes, bientôt des phytothérapeutes, etc. En fait, tout ce qui n'est pas sous le joug de l'industrie pharmaceutique est voué à être éliminé d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est très net, il faut le dire et il faut le savoir.
Lors de la table ronde, vous avez évoquer l'enseignement au Tibet par les bouddhistes donné aux enfants.
Oui, c'est particulier en Occident et chez certaines civilisations à culture bouddhiste. On considère l'enfant roi jusqu'à l'âge affectif, voilà, où il doit rester un peu dans le cocon maternel, familial. Ensuite, ce qui a évolué dans la société actuelle, c'est qu'on a tendance à demander à l'enfant d'être plus rapidement scolarisé, et donc ça suppose en gros un développement excessif du cerveau gauche, qui est déjà trop développé dans notre société, et non pas du cerveau droit, qui est un cerveau plus intuitif, plus maternel, plus imaginatif. Le cerveau gauche et le cerveau cartésien, hein, si on schématise. Bon. Les bouddhistes disent, comme nous, on le disait encore récemment, bon, après l'âge maternel, l'enfant, il faut qu'il rentre en lien social avec les autres, avec la société en général, et il va commencer à pouvoir conceptualiser, en tout cas, contrôler une partie de ses émotions, et les exprimer, entre autres, de manière compréhensive. À partir de là, il développe essentiellement le cerveau gauche. Sauf si le système scolaire est suffisamment ouvert et a aussi les moyens de faire développer le cerveau droit et la connexion entre les deux cerveaux. Hein, c'est-à-dire que une connaissance, c'est quelque chose qui est un peu horizontal. L'imagination, l'esprit critique, la gestion de l'émotion, c'est quelque chose qui est plus vertical. Et en fait, il faut ces deux systèmes pour former quelqu'un qui soit intéressant sur le plan d'intelligence. Parce que des bibliothèques ambulantes, des experts, on en a autant qu'on veut. Mais des gens qui sont capables de réfléchir par eux-mêmes, d'être critiques, de se remettre en question, d'avoir une vue philosophique humaniste, de l'utilisation de l'intelligence qu'ils vont faire, ça n'en a pas beaucoup.
Que disent les Tibétains à un enfant ou un adolescent ?
Tout au début de l'enseignement d'un enfant vers l'âge de 5-6 ans, ils disent voilà, maintenant, fini de s'amuser, tu vas apprendre auprès de professeurs d'enseignants qui sont passionnants, tu vas apprendre plein de choses, profite de cela, mais n'oublie jamais ta première leçon qui consiste à dire tout ce qu'on t'apprend, tu ne dois pas le croire, tu dois le remettre en question, tu dois le vérifier par toi-même. Donc on les initie à avoir un cerveau de chercheurs, de vrais scientifiques qui se remettent en question. Alors qu'en Occident ou dans le confucianisme, mais par exemple chez les Chinois, on leur dit écoute le professeur et surtout ne remets pas en question, c'est lui qui sait.
Vous parliez tout à l'heure de comment trouver les outils d'autocritique.
Alors les outils d'autocritique, il faut bien sûr que quelqu'un vous les enseigne à la base, bien qu'il y a des gens qui sont critiques méfiants d'emblée. Et ça fait des très bons scientifiques, par exemple, ou de très bons journalistes, parce qu'ils vont vraiment chercher sur le terrain de différentes opinions, ils vont les confronter et ils vont essayer de faire une opinion la plus juste possible. Ensuite, moi j'ai eu la chance d'avoir connu au cours des études de médecine, lesquelles on apprenait à faire une lecture critique des publications scientifiques, tellement on l'apprend très peu. Donc on a perdu dans ce domaine-là, comme dans l'ingénierie, comme dans les sciences fondamentales, la possibilité de critiquer. Et ça va très loin, parce qu'il y a même des lois qui interdisent de remettre en question certains dogmes, on peut dire ça comme ça, en médecine. Lorsque vous sortez des chemins tracés pour des protocoles de traitement, quelqu'un, vous êtes condamnable. Or, la médecine allopathique, c'est la médecine la moins pratiquée au monde. La médecine la plus pratiquée au monde en termes de nombre de patients et de nombre d'actes médicaux, c'est la médecine ayurvédique, la médecine chinoise et les médecines traditionnelles. Et non pas l'allopathie, un peu pignon sur rue, dans le monde occidental.